Tous, eh bien, nous sommes réunis ce matin, samedi matin, pour une nouvelle conférence. Merci d'être présent et je passe un tout petit message avant de présenter la conférence. Je dis juste que les musiques que vous écoutez et que vous entendez sur cette web TV viennent d'une plateforme qui s'appelle jamendo.com. Je dis comment ça s'écrit, c'est jamendo.com et c'est une plateforme de musique en accès libre. Voilà. Donc vous pouvez aller voir, il y a tout plein de choses et pour tous les goûts surtout. Alors ce matin, la conférence que j'appelle plutôt conférence participative, mais je vais expliquer pourquoi, s'intitule l'importance de la valorisation de la reconnaissance des différentes formes d'engagement volontaire des jeunes. Un titre peut-être un peu long, mais tout à fait explicite. Pour cela, nous recevons Ludovic Falex, qui est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, qui en dira peut-être un petit peu plus sur sa présentation. Il a réalisé dernièrement avec Frédéric Lebas une recherche-action qui a fait l'objet d'un document intitulé « Le BAFA au CMEA, un milieu de formation dans le secteur de l'animation volontaire ». Ces chercheurs pensent que le BAFA pourrait devenir un espace de formation qui sanctionne aussi la reconnaissance de l'engagement volontaire. C'est plutôt aussi le cas de ce que pensent les CMEA. Est-ce qu'on pourrait envisager que les stagiaires BAFA puissent réaliser un stage pratique au sein de structures qui ne soient pas exclusivement des accueils collectifs de mineurs? Des structures associatives dont les objectifs ciblent l'humanitaire, le caritatif, l'économie sociale et solidaire, la transition écologique, ne seraient-elles pas des espaces potentiels de stage qui permettent le rite de passage à l'âge adulte et ou l'initiation à l'âge adulte? Pour cette expérience, les stagiaires pourraient devenir les ambassadeurs de la transformation sociale, d'une société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle. Voilà, je vais laisser la parole à Ludovic qui va nous expliquer un petit peu, développer un petit peu ces sujets.
Merci Béatrice. Oui, effectivement, donc je m'appelle Ludovic Falex, je suis maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, rattaché à l'unité mixte de recherche du CNRS intitulé Territoire, qui est le labo dans lequel je réalise les recherches scientifiques un peu fondamentales. Et puis, rappeler aussi que cette recherche-action, là, dont je dirais deux mots sur les éléments de contexte, était hébergée à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine. Donc en fait, on a effectivement, avec une équipe de chercheurs, dont Frédéric Lebas fait partie, qui est maître de conférence associé à l'Université de Clermont-Auvergne, on a réalisé une recherche-action engagée depuis 2019, dont l'initiative au départ a été formalisée en interne par les CMEA et plus particulièrement par Valérie Sibert, qui est sur la région Auvergne, et Anne-Claire Devauche qui pilotait cette action au sein des CMEA. Et le constat dressé en interne hein, chez vous par les CMEA était que dans le cadre des formations BAFA, vous assistiez à une érosion du nombre d'inscriptions sur les internes. Et donc initialement, la problématique était la suivante, c'était de réfléchir et de conduire une recherche quant au fait d'identifier les raisons pour lesquelles il y avait cette érosion-là et de poser des risques que ça pouvait avoir un impact sur la nature des formations compte tenu du fait que les CMA considèrent que une formation BAFA en internat est beaucoup plus enrichissante qu'une formation BAFA en demi-pension, voire en externat, même si je sais que l'externat est un dispositif que vous plébiscitez pas. Donc dans ce contexte-là, on a envisagé conjointement entre CMEA et puis équipe de chercheurs d'envisager quelle pouvait être la méthodologie qu'on allait mettre en œuvre pour capitaliser des données et puis du coup vous accompagner dans la réflexion que vous pouvez porter sur ces thèmes-là. Et on en est arrivé à la conclusion que, au lieu de privilégier des méthodologies quantitatives, on allait privilégier des méthodologies fondées sur capitalisation de données qualitatives. Et donc, dans ce contexte, il y avait différentes formes, différents types de protocoles qu'on pouvait mettre en œuvre. Et compte tenu de l'engagement que nous, on souhaitait prendre aussi avec l'ICMEA, l'engagement scientifique est le nôtre, on s'est dit que, on allait privilégier la participation observante. Donc, je dis quelques mots sur la participation observante. Hein. Ça se caractérise par une immersion pleine et entière au sein des offres de formation telles qu'elles sont formalisées par l'ICMEA. C'est-à-dire que l'équipe de chercheurs s'est positionnée en ne dévoilant pas finalement les raisons pour lesquelles ils prenaient part à la formation. Et donc, on a été tantôt stagiaire BAFA, à l'instar des autres stagiaires. Et puis, on s'est rendu compte aussi quand même des limites de cette là compte tenu de notre âge respectif avec Fred, puisqu'on a passé la barre des quarantaines, et qu'il y avait donc un fossé générationnel, on va dire ça comme ça, qui s'instaurait au cours de la formation. Et donc, on a expérimenté le fait non pas d'être stagiaire BAFA, mais de devenir aussi formateur. L'enjeu était de s'inscrire dans une perspective comparative aussi entre ces deux postures-là, c'est-à-dire à la fois stagiaire et en même temps formateur. Donc, très concrètement, ça signifie hein, que nous, on a fait l'expérimentation hein, charnelle dans la chair et le sang, comme pourrait dire Loïc Vacan, à la fois des outils et des méthodes qui sont proposées dans le cadre de l'offre de formation BAFA. Et du coup, on était donc dans une posture de participation observante et non pas d'observation participante. C'est-à-dire que cette distinction entre observation participante et participation observante se réalise à partir des formes d'engagement que prennent les chercheurs dans le dispositif méthodologique. Et donc nous, on était vraiment dans la participation observante, c'est-à-dire, hein, je reviens, qu'on a fait de l'expérimentation à la fois des outils et des méthodes pour engager finalement des dynamiques d'interaction à la fois avec les stagiaires et les formateurs. On considérait hein, ces interactions comme étant des espaces potentiels quant au fait de capitaliser des données et d'avoir une lecture hein, de la manière dont les stagiaires vivent la formation et les formateurs la proposent. Donc finalement, ça s'est traduit par quatre phases d'immersion. Il y a eu une première phase d'immersion à Bordeaux où on était stagiaire dans le cadre d'un BAFA en demi-pension. Puis ensuite, il y a eu une phase d'immersion, toujours sur l'AT de Bordeaux, où là, cette fois-ci, on était formateur dans le cadre d'une offre BAFA en demi-pension. Et puis, dans cette perspective comparative, il y a donc eu aussi deux immersions qui ont été réalisées, une à l'échelle de CMEA Auvergne, cette fois-ci en internat. Bon, il faudra qu'on réfléchisse au terme, en tout cas qu'on questionne cet enjeu relatif à identifier un BAFA en internat, où là, il y avait deux chercheurs qui étaient en position de stagiaire, et puis ensuite, une dernière immersion, mais cette fois-ci en Rhône-Alpes, toujours dans le cadre d'un BAFA en internat, où on avait à la fois un chercheur en position de stagiaire et un chercheur en position de formateur. Voilà pour les immersions. Ce qui représente à peu près, hein, pour évoquer des éléments un peu quantitatifs, ça représente plus de 500 heures en immersion auprès des CMEA pour observer les pratiques pédagogiques et puis les dynamiques d'interaction qui se forgent entre stagiaires et formateurs et entre formateurs. Et ça renvoie un effectif, à une cohorte, si vous voulez, de 120 stagiaires BAFA, inscrits en BAFA 1 essentiellement, qu'on a pu suivre. Voilà pour les éléments de contexte. S'engager dans un dispositif de participation observante, c'est-à-dire prendre part hein, à la vie qui se déroule dans le cadre de l'objet d'étude, ça signifie au préalable, comme le dit Maurice Godelier, l'anthropologue, de réaliser une opération de décentrement, parce que ce n'est pas évident finalement, dans la mesure où on mobilise à la fois des dimensions affectives, émotionnelles, voilà, auxquelles les chercheurs doivent être attentifs de manière à ce que celles-ci ne biaisent pas trop aussi le regard qu'on peut porter sur l'objet d'étude. Et donc ce décentrement, hein, Gaudelier insiste sur le fait qu'il s'agit de prendre de la distance d'une part avec la construction de ce qu'il appelle son moi social, mais aussi d'avoir un travail introspectif et de questionnement par rapport à son moi intime. Est-ce que le chercheur injecte de sa propre intimité dans la manière dont il construit lui aussi ses interactions? Et puis de réaliser le décentrement sur le troisième type de moi qu'identifie Maurice Gaudelier, qui est cette fois-ci le moi cognitif, c'est-à-dire les connaissances, voilà, le périmètre culturel dont dispose le chercheur. Et puis après, si on mobilise un autre auteur aussi qui s'inscrit dans la veine de ces méthodologies qualitatives, hein, on peut convoquer les travaux de Loïc Vacan, dont j'ai déjà dit un mot, qui lui milite en faveur d'une sociologie de chair et de sang, c'est-à-dire que le chercheur intègre, expérimente, vive son objet d'étude. Et pour y parvenir, Vacan met en exergue le fait que le corps constitue finalement un réceptacle quant au fait de pouvoir capitaliser aussi des données qualitatives. Et parmi ces éléments d'expérience corporelle, Vacan insiste sur ce qu'il appelle les 6 S, c'est-à-dire le fait que, d'une part, le corps est un corps sensible, et donc il faut être attentif justement aux éléments relatifs à cette sensibilité que le chercheur engage quand il s'inscrit dans des interactions sociales, mais que le corps est aussi un corps souffrant, c'est-à-dire que il y a une. Alors, souffrant, pas au sens premier du terme, hein, il insiste sur le fait que c'est l'expérimentation, si on devait caractériser ce que Vacan entend derrière ce terme-là, mais que le corps est aussi un espace, un outil avec lequel on développe un savoir-faire, hein, dit que le corps est sachant faire, et que l'ensemble finalement de ces données se sédimente, c'est le quatrième S, pardon, et que enfin le corps est situé, c'est-à-dire que les vérités qui sont établies, ou en tout cas les conclusions qui sont établies dans le cadre d'une recherche-action qui repose sur la participation observante, sont circonscrites au périmètre dans lequel s'inscrit l'étude. C'est-à-dire que ça pose la question de la transférabilité, hein, de nos conclusions. Dans la mesure où il y a eu 3 régions qui ont été un peu pilotes, est-ce qu'on aurait observé les mêmes dynamiques, les mêmes interactions, et est-ce qu'on aurait abouti au même type de conclusion si on avait réalisé ces immersions, je ne sais pas, en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France ou en Alsace, hein, ou dans les DOM-TOM. Voilà, c'est une question qui reste en suspens et sur laquelle on n'a pas véritablement de réponse. Et puis, dernier élément qui constitue donc la composition des 6 S que Vacan évoque dans ce qu'il appelle l'ethnographie inactive, c'est le fait que les 5 S précédents, c'est-à-dire le corps sensible, le corps souffrant, le corps sachant faire, le corps sédimenté et le corps situé, participent d'une structuration de la connaissance. Et donc c'est le sixième S. Hein, ces 5 éléments sont fondamentaux pour aboutir à une forme de structuration, si vous voulez, de la connaissance. Donc je ne vous cache pas que c'est relativement éprouvant, hein, de s'engager dans ce type de dispositif, puisqu'il y a un vrai engagement des chercheurs. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'études sur le BAFRA qui ont été conduites dans cette perspective-là, mais je pense que ça constitue une force quant à la manière dont on est capable d'identifier les principales conclusions. Ça permet aussi de prendre ses distances, hein, avec les données essentiellement quantitatives dont on dispose sur le BAFRA. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est un champ d'intervention qui commence à être de plus en plus utilisé par les chercheurs en sciences sociales. Il y a des travaux qui ont été réalisés, hein, chez les jeunes dans le monde rural, plus particulièrement, qui reposent aussi sur cette ethnographie inactive. Et puis, dernier élément peut-être de clarification épistémologique et méthodologique, ce travail-là nécessite aussi, c'est-à-dire le travail de la participation observante, nécessite aussi de réaliser ce que Bourdieu appelle l'anamnèse, c'est-à-dire la mise à distance de l'objet, et que le chercheur soit en capacité d'interroger ses propres représentations vis-à-vis de l'objet sur lequel il travaille. Voilà. Donc, quelles sont les principales conclusions qui ont été établies à l'issue de cette recherche-action dont j'ai pu présenter le dispositif méthodologique? Le premier élément, c'est que on s'est rendu compte que dans les formations BAFA auxquelles on a assisté, coordonnées, pilotées par les CMEA, l'expérimentation, mais là je vous apprendrai rien, hein, l'expérimentation est vraiment au cœur du dispositif de formation. Néanmoins, il ne s'agit pas d'expérimenter pour seulement expérimenter, c'est-à-dire que ce qu'on a pu dévoiler, c'est que cette expérimentation proposée aux stagiaires leur permet de prendre la mesure de leur présence au monde. C'est-à-dire hein, de prendre la mesure de leur existentialité. Et parce qu'il y a des postures pédagogiques qui sont fondées sur la bienveillance, sur l'écoute, sur le partage et sur le vivre ensemble, ça permet aux individus donc de nourrir justement cette présence au monde. Maurice Merleau-Ponty dit que pour être, hein, c'est-à-dire pour nourrir cette existentialité, l'un des enjeux consiste à être situé. Et on s'est rendu compte que la plupart des outils et des méthodes plébiscitées dans le cadre de l'éducation nouvelle permettaient justement aux stagiaires ce qu'on appelle l'appropriation du milieu, c'est-à-dire, encore une fois, je vais mobiliser Merleau-Ponty, c'est-à-dire cette appropriation de ce que Merleau-Ponty appelle l'espace spatialisé, qui du coup devient un espace spatialisant, c'est-à-dire qu'au départ, on a un lieu, hein, et donc le lieu est plutôt amorphe. C'est un topos, comme on peut dire, hein, c'est-à-dire composé d'éléments, si vous voulez, matériels, mais qui sont inanimés. Et les outils et les méthodes auxquelles renvoie l'éducation nouvelle permettent de transformer ce lieu en espace, et qui, dès lors qu'il fait l'objet d'une appropriation sensible, culturelle, politique par les stagiaires, cet espace constitue le milieu de formation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a intitulé ce rapport, hein, l'animation volontaire au CMEA renvoie à l'émergence d'un véritable milieu de formation. Et donc, c'est cette transformation du topos en cosmos, si vous voulez, qui permet l'émergence de ce milieu. C'est-à-dire que dès que les individus nourrissent le sentiment d'une présence au monde, on n'est plus dans un lieu, mais on est dans une dimension cosmogonique. Donc, on est dans un lieu qui est approprié. Et puis, ce qu'on a pu observer également, c'est que, encore une fois, hein, les outils et les méthodes auxquelles renvoie l'éducation nouvelle, alors je ne rentrerai pas dans le détail des outils et des méthodes dont on a fait l'expérimentation, même si ça mériterait quand même d'être développé, mais voilà, c'est des outils qui sont utilisés hein, par la plupart des formateurs qui sont issus des CMEA. Donc ces outils et ces méthodes, ces pratiques et ces postures pédagogiques, si vous voulez, permettent justement aux stagiaires de développer leur espace potentiel. Là, cette fois-ci, c'est une référence aux travaux de Winnicott. Hein, et Winnicott identifie l'espace potentiel comme étant non pas l'espace de la réalité psychique des stagiaires, ni le monde existant, si vous voulez, c'est-à-dire froid, figé et composé d'éléments matériels. L'espace potentiel pour Winnicott est un espace qu'il appelle la troisième R, hein, comme étant opposé à la réalité psychique et au monde existant, au sein de laquelle les stagiaires ont l'opportunité de développer leur créativité. Et donc, nous, il y a un concept auquel on est très très attaché, qui est le concept d'habitabilité, hein, et en fait, on s'est rendu compte que justement, encore une fois, les postures pédagogiques embrassées par les formateurs des CMEA permettaient de développer des habiletés, hein, des habiletés à la fois motrices, mais aussi sociales, culturelles chez les stagiaires, qui leur permettaient de prendre conscience justement de cette habitabilité au cœur ou au sein d'un milieu de formation qui a sa spécificité. Voilà, si vous voulez, pour les éléments relatifs à l'habitabilité et à l'émergence d'un milieu. D'autre part, on s'est rendu compte, et là ça me permet peut-être de véritablement embrasser les enjeux de la conférence de ce matin, c'est-à-dire comment est-ce que on s'engage dans la valorisation, la reconnaissance des différentes formes d'engagement volontaire des jeunes. On s'est aussi rendu compte que tous les stagiaires qui étaient inscrits dans un BAFA au CMEA ne partageaient pas les mêmes finalités vis-à-vis de l'obtention de ce brevet. Et en fait, nous, on a identifié trois groupes hein, essentiellement. Le premier groupe de stagiaires, c'est ceux qui considèrent que le BAFA s'inscrit pleinement dans un parcours, si vous voulez, de réussite sociale. Et en règle générale, on se rend compte que ceux qui ont cette lecture, finalement, du BAFA sont ceux qui disposent déjà d'un stock de capitaux symboliques assez important et qui sont déjà inscrits dans ces formes de réussite sociale. On a un deuxième type de stagiaires BAFA qui, eux, enfin, considèrent le BAFA comme étant un tremplin vers le fait de s'engager dans le monde de l'animation socio-culturelle, donc qui voient ça comme un premier temps de formation en ayant pour horizon de professionnalisation le monde de l'animation socio-culturelle. Et puis, il y a un troisième type de stagiaire, et c'est ceux-là auxquels je pense qu'il faut qu'on soit davantage attentif collectivement. C'est les stagiaires qui sont un peu là par hasard, qui ont été placés dans une offre de formation BAFA parce qu'il y a des logiques de réparation sociale, parce qu'il y a des logiques d'accompagnement d'individus qui sont parfois en proie à des formes de précarité sociale ou d'échec scolaire et auxquels on propose dans des logiques de contractualisation de s'engager dans des offres de formation. Et du coup, sans doute que c'est cela auquel il faut être attentif parce qu'on se rend compte que malgré le fait qu'ils ne considèrent pas le BAFA comme étant un horizon de professionnalisation à moyen terme, eh bien, il caresse des espoirs, des envies quant au fait de trouver un ancrage aux engagements volontaires qu'ils souhaitent prendre. L'autre élément fondamental aussi sur lequel je souhaiterais revenir, c'est sur le degré de politisation des formateurs. On s'est rendu compte en fait que en fonction du niveau de politisation des formateurs, on n'avait pas la même ritournelle, c'est-à-dire la même petite musique, si vous voulez, dans la mise en œuvre de la semaine de formation. Et ce qui est assez intéressant à mettre en exergue, c'est d'identifier que finalement, plus les formateurs développent une lecture politique de la formation, plus ils s'inscrivent dans une forme d'émancipation des finalités assignées au BAFA. C'est-à-dire qu'ils prennent leur distance aussi sur les critères d'évaluation de la réussite au BAFA pour s'inscrire davantage dans ce qu'ils considèrent être comme une formation citoyenne des jeunes et un accompagnement justement vers la reconnaissance des formes d'engagement que prennent les jeunes. Au risque hein, finalement de proposer une offre de formation voilà, qui est un peu distante des objectifs assignés dans le cadre de la certification par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc nous, on a trouvé ça assez intéressant, d'autant plus qu'encore une fois, j'y reviens, hein, il y a une partie des stagiaires qui sont là sans véritablement caresser l'envie de s'inscrire à long terme hein, des espaces socio-culturels au cœur des accueils collectifs de mineurs. Donc, on en est arrivé à questionner finalement à la fois les formateurs et les stagiaires quant aux opportunités que pourrait recouvrir la réalisation de tâches pratiques BAFA. Alors, est-ce que ça s'appellera encore le BAFA? La question reste en suspens. Mais qui pourraient être des stages pratiques réalisés dans le champ de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique, du travail social, de l'accompagnement intergénérationnel, du monde des arts, de la médiation culturelle, Voilà, pourquoi pas de l'humanitaire, enfin, vous voyez, de l'économie sociale et solidaire aussi, c'est-à-dire tout ce périmètre-là auquel finalement les stagiaires BAFA n'ont pas accès et qui renvoie malgré tout aux préoccupations de cette génération qu'on appelle la jeunesse, hein, même si c'est sans doute pas approprié de dire une jeunesse parce qu'il y a un caractère pléthorique, si vous voulez, des aspects sociaux qui permettent de qualifier ce que recouvre le concept de jeunesse. Et qui s'inscrivent donc en résonance avec leurs préoccupations, à la fois écologiques, environnementales, sociales, culturelles, parfois même politiques, hein, ou même sur des logiques de consommation. On se rend compte aussi que parfois certains développent une lecture critique vis-à-vis de l'idéologie capitaliste, hein, si vous voulez. Donc ça, c'était vraiment important. Et puis, un autre enjeu, je pense, mais cette fois-ci qui transcende la question de l'engagement des jeunes et qui renvoie au positionnement politique du mouvement CMEA, c'est qu'on considère, à tort ou à raison, et là, je pense que c'est l'objet d'un débat aussi ensuite, et nous, on embrasse une posture un peu subversive, non pas pour apporter des réponses, mais plutôt pour solliciter le débat et voir dans quelle mesure... ce qu'on considère être des pistes de réflexion peuvent voilà, alimenter la controverse, les débats contradictoires. Donc on considère qu'en marge, si vous voulez, des opportunités relatives au fait d'identifier que des stages BAFA puissent voir le jour dans d'autres structures que les accueils collectifs de mineurs, on considère que c'est aussi un horizon de réflexion pour le mouvement CMEA dans la mesure où ça permettrait peut-être... de faire infuser l'éducation nouvelle et la philosophie à laquelle renvoie l'éducation politique dans d'autres sphères, si vous voulez, que la sphère seulement éducative ou socio-éducative. Nous, on considère que c'est aussi une opportunité pour les CMEA d'aller renforcer des partenariats avec d'autres structures. Notamment celle de l'économie sociale et solidaire ou du mouvement écologique, voilà, qui permettrait peut-être de reconfigurer, si vous voulez, les objectifs politiques, hein, du projet que les CMEA partagent, développent. Ça enfin, de notre point de vue, c'est important. Et puis, pour revenir donc aux jeunes qui considèrent que le BAFA n'est pas nécessairement un outil pour être exclusivement animateur, si vous voulez, auprès des jeunes, on considère que du coup, il y a peut-être un travail à réaliser dans le cadre d'une ingénierie de formation sur le BAFA pour voir dans quelle mesure. Ça constitue une opportunité ou à l'inverse une menace, hein, et donc là c'est aussi l'objet de la contradiction quant au fait de revoir l'offre de formation en ayant en tête l'opportunité de proposer aux stagiaires la réalisation de stages qui ne soient pas exclusivement dans les accueils collectifs de mineurs. Alors, il y a un acteur, hein, que ça risque de heurter, tout particulièrement. Je pense que l'acteur en question, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports, compte tenu du fait que son périmètre, si vous voulez, qui justifie la légitimité de ce ministère, est circonscrit à l'accueil collectif de mineurs. Donc, si on sort de ce périmètre-là pour réaliser des stages, ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres entités ministérielles qui pourraient investir la table ronde et la table des discussions, je pense au ministère du développement durable, de l'écologie, au ministère de la culture, etc., qui pourraient du coup identifier les mouvements d'éducation populaire comme étant des ressources, hein, avec lesquelles ils ont envie de travailler pour qu'infusent, hein, les pédagogies et la mobilisation des outils et des méthodes plébiscité dans le cadre de l'éducation nouvelle. Moi, j'ai le sentiment que ça s'inscrit véritablement dans le projet de transformation sociale porté par les CMEA, parce que finalement, ce dont on se rend compte aussi dans le cadre de l'étude qu'on a conduite, c'est que les stagiaires s'inscrivent au CMEA sans avoir une connaissance exhaustive et pointue du positionnement militant défendues par les formateurs et qu'ils empruntent une bifurcation dans leur trajectoire sociale à partir justement des postures, des outils et des méthodes qui sont plébiscitées par les CMA. Donc, de notre point de vue, il y a l'opportunité non seulement d'une forme de reconnaissance de l'engagement des jeunes qui n'est pas circonscrit au périmètre de l'accueil collectif de mineurs, et puis il y a l'opportunité pour les mouvements d'éducation populaire de renforcer des partenariats avec d'autres acteurs vis-à-vis desquels il y a sans doute un projet commun, si vous voulez, de transformation sociale. Voilà pour les éléments de présentation. J'espère que c'était pas trop confus et que du coup, j'avais aussi évoqué alors avec Jean-Baptiste, avec Béatrice, mon souhait, mon envie de ne pas être dans une posture descendante et de faire une conférence un peu, si vous voulez, traditionnelle avec un PowerPoint, etc. Néanmoins, ça me semblait important de clarifier le contexte épistémologique et méthodologique dans lequel on a réalisé l'étude, et puis de présenter quelques pistes. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les conclusions qui figurent dans le rapport qui a été remis au CNR sont des conclusions partielles, et c'est des discussions qu'on a eues aussi en interne dans le cadre du séminaire national. Voilà, l'étude mériterait, hein, pour aller plus loin, de s'inscrire dans une logique comparative encore plus aboutie que les trois athées dans lesquels on a travaillé. Et puis, mériterait aussi qu'on puisse avoir un suivi de cohorte, c'est-à-dire les 120 stagiaires BAFA avec lesquels on a collaboré, pour appréhender comment est-ce que, en marge des transformations sociales qu'on a pu identifier dans le cadre du stage, celles-ci sont réappropriées par les jeunes dans le cadre d'une trajectoire sociale, politique, culturelle, et là-dessus, on n'a pas suffisamment de lisibilité. Voilà.
Merci Ludovic. Alors il va y avoir deux situations juste après cette intervention. Comme je vous le disais en introduction, on est bien sur une conférence participative. Donc la deuxième partie, je vais vous présenter comment ça va se passer. Pour les gens qui sont inscrits sur les journées d'études jeunesse, là sur les 3 jours, vous allez être envoyés, si je peux me permettre du terme, dans des petits salons. Pour une dizaine de minutes pour réfléchir à des questions, des éléments de compréhension, des éléments complémentaires que vous pourrez ensuite mettre dans le chat ou poser directement à l'oral à Ludovic. Et pour les gens qui sont sur la Web TV, l'idée c'est que ben là on va faire une petite pause de 10 minutes. Et vous pouvez mettre toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et mon collègue Jean-Baptiste pourra nous dire l'ensemble des questions, fera des groupes de questions, etc. Comme nous pouvons être des professionnels de la communication. Et Ludovic pourra avoir comme ça l'ensemble des interrogations. Donc je vais dire le bip. 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien voilà, après ces quelques minutes de réflexion, nous allons pouvoir passer à la deuxième phase de cette conférence qui est la question de la participation. Et donc nous vous proposons de poser déjà quelques questions. Là, je vais commencer par Jean-Baptiste, le temps que les gens reviennent des petits salons et écrivent dans le chat.
Oui, merci Béatrice. Alors effectivement, il y a plusieurs questions qui se posent. Alors, dans un premier temps, une question quantitative. C'est un stagiaire des CMA de Lille qui pose la question des trois répartitions, avec les trois finalités différentes. Est-ce que ces trois répartitions ont été quantifiées? Voilà, ça c'est une première question. Et du coup, est-ce que par rapport à cette quantification, ça permet d'avoir quelques remarques, quoi, une réaction par rapport à ces proportions? Et puis après, il y a une question de, par exemple, est-ce que il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se passe dans l'expérience d'un volontariat à l'international et le BAFA? Du coup, on pourrait envisager le fait qu'il y ait une formation obligatoire type BAFA pour pouvoir faire un volontariat à l'international, et du coup le volontariat à l'international pourrait devenir une forme de stage pratique. Et donc, du coup, après, il y a des questions plus techniques, ce que tu disais, hein, Ludovic. Du coup, si pas d'habilitation JS, pas de numéro, donc pas de BAFA, donc pas de stage pratique, effectivement, ça demande une grande réforme de cette question-là. C'est porté par qui? C'est porté par quel type de ministère? C'est porté par l'État, du coup, le Premier ministre? Voilà, il faudrait qu'on ait une réflexion sur cette question-là. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le SNU. Et donc, du coup, avec le caractère obligatoire, le caractère est-ce que ça marche? Parce que du coup il y a quand même une idée de volontariat, de choix, de liberté, même si c'est des parents qui choisissent le cours. Si ça devient obligatoire demain, comment est-ce qu'on peut continuer d'en faire un objet de transformation sociale si ça devient obligatoire? Voilà, ça c'est plus une réflexion personnelle, mais il y a des questions qui se posent en ce sens sur le chat. Je m'arrête là-dessus. Éventuellement, Béatrice, tu peux me redonner la parole. Il y aura peut-être une ou deux autres questions.
Avec plaisir, merci. Oui, je te laisse déjà sur ces différentes questions, Ludovic.
Alors, sur le premier élément, les éléments quantitatifs, la répartition est la suivante, au moins 50 à 60% de stagiaires BAFA qui sont déjà dans des parcours de réussite sociale et qui sont convaincus de la raison pour laquelle ils sont là. Et puis après, donc sur les 40% restants, on va dire qu'il y a 20% à peu près qui sont dans une perspective de professionnalisation dans le champ de l'animation socioculturelle. Et puis 20% qui sont là sans véritablement connaître les raisons pour lesquelles ils sont là. À peu près, c'est ça la répartition. Le deuxième élément, c'est que oui, Jean-Baptiste, ça renvoie sans doute à une réforme importante, lourde, mais j'ai souvenir hein, qu'à une époque, on avait quand même, sous l'égide de Martin Hirsch, et c'était sans doute un travail préparatoire à la mise en place du SNU, mais on avait, alors le titre qui était le sien, je ne sais plus, c'était, en tout cas, il était à la jeunesse, et c'était quoi? Haut-commissaire à la jeunesse, voilà, ça me revient. Hirsch était haut-commissaire à la jeunesse, donc c'est la preuve aussi que, si on veut engager une réflexion, alors après je ne suis pas convaincu que ce soit que la réforme du BAFA doive être placée dans ce dispositif ou dans ces dispositions-là, mais toujours est-il que voilà, il y a eu un haut commissaire à la jeunesse qui avait une lecture interministérielle finalement des préoccupations liées à la mise en œuvre des politiques publiques dans le champ de la jeunesse. Donc on pourrait très bien envisager que ça se passe comme ça. Après le caractère obligatoire du BAFA. En lien avec la dimension obligatoire du SNU, je ne sais pas, je dis pourquoi pas, tout dépend de l'opérateur qui est derrière la dimension obligatoire. Voilà, la question c'est celle-ci. Est-ce que le BAFA pourrait être un parcours de formation qui s'inscrit en lien avec l'éducation nationale, mais sous réserve que ce soit d'autres acteurs que ceux qui sont issus de l'éducation nationale qui proposent une ouverture sur d'autres formes de pédagogie. Mais je m'autorise quand même une diatribe en disant que la gendarmerie et les militaires, de mon point de vue, ne mettent pas en place de la pédagogie, mais mettent en place des dispositifs coercitifs. C'est pas du tout.
Ok, alors il y a pas mal de questions dans le chat là. Alors David nous dit le titre exact, c'est Haut commissaire aux solidarités actives.
Non, il a été haut
Ah non.
commissaire à la jeunesse, mais
Ah
dans les
d'accord.
années 2010, quoi, quelque chose comme ça. Là, maintenant, il a un nouveau titre parce que ils ont une disposition à se recycler, tous ces gens.
Ça marche. Alors là, il y avait des choses sur. Alors, le stage pratique en dehors des ACM, hein, il y a plusieurs questions. Comment garantir un minimum le cadre et l'accompagnement du stagiaire pour atteindre les objectifs de départ? De départ. Tu parles, Jamel, tu peux parler, hein, tu peux prendre la parole. Le départ. En mobilité, tu voulais dire hors.
Oui, tu m'entends?
Oui, très bien.
Alors, quand je disais de départ, c'est que dans le cadre du stage BAFA, il y a des objectifs qui sont fixés déjà par le ministère. Donc, du coup, on se doit à travers tout le cursus, le parcours BAFA, d'atteindre ces objectifs-là, en tout cas d'essayer au maximum. Et c'est de se dire, bah, le fait que ça se fasse dans le cadre des ACM, c'est qu'il y a une habilitation, donc on garantit un certain cadre. Donc, je suis pas contre pour que ça se fasse ailleurs, mais c'est aussi comment on garantit que le stagiaire, lorsqu'il va faire son stage pratique, il y a un minimum de garantie pour qu'il puisse être accompagné. Parce que faut pas oublier le pourquoi du départ de l'engagement sur un parcours BAFA.
J'éprouve des difficultés à répondre à Jamel, c'est-à-dire que de mon point de vue, s'il y a, mais là ça n'engage que moi, s'il y a l'opportunité de réaliser des stages qui ne sont pas exclusivement dans les ACM, ça nécessite aussi un travail de toilettage de l'identification des objectifs initiaux qu'on assigne au BAFA. Et je l'ai dit, c'est-à-dire que, il y a des formateurs qui sont politisés au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de prosélytisme, hein, si vous voulez, hein, politique au sens partisan. Mais voilà, ils sont politisés, c'est-à-dire qu'ils portent une lecture sur la société, une lecture quant aux modalités de mise en œuvre du monde d'après, là, on peut filer cette métaphore-là, et qui réussissent à s'affranchir finalement des objectifs. Tels qu'ils sont formalisés dans le cadre de la certification, au bénéfice de ce qu'ils considèrent être une formation à la citoyenneté, à la laïcité, à l'apprentissage du vivre ensemble, à la mixité sociale, au positionnement politique des stagiaires. Et c'est parce qu'il y a ce parti pris, si vous voulez, pédagogique, qu'on identifie des ruptures ou des bifurcations dans les trajectoires des stagiaires BAFA. Si on est exclusivement sur des objectifs dont la finalité consiste à valider ou invalider des périmètres de compétences, je pense qu'on s'éloigne de la philosophie de ce que peut être une formation BAFA un peu transversale. C'est quelque chose que j'avais dit en filigrane lors de ma présence au séminaire à Saint-Hilaire, au séminaire CMEA. C'est que si on respecte finalement les objectifs tels qu'ils sont formalisés, sur les critères d'évaluation de réussite au BAFA, on pourrait proposer aux stagiaires un QCM et ce serait suffisant. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des éléments de subjectivité qui sont mobilisés dans le cadre de l'évaluation des stagiaires BAFA. Et parmi ces éléments de subjectivité, il y a l'identification de la transformation du stagiaire entre la posture qu'il a adoptée en début de stage et puis après les modalités d'engagement qu'il prend quant au fait d'appartenir au collectif et qui est un des critères finalement très très subjectifs de la manière dont on peut apprécier la réussite d'un stagiaire BAFA dans le cadre du brevet. Donc peut-être que les objectifs doivent être retravaillés. En identifiant justement les enjeux, hein, quant au fait de savoir, hein, ce qui nous lie, ce qui fait qu'on fait société, collectivement.
Alors, évidemment, là, comme il y a une question qui est sur la question, évidemment, sur les textes officiels du ministère, hein, mais quelle stratégie pour impliquer d'autres ministères sur ces questions de stage pratique? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir de la transversalité avec d'autres ministères? Il y a une époque, c'était le ministère de la Ville, hein, qui était assez, hein, qui pouvait picorer à droite, à gauche, sur des actions, différents ministères, mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux répondre à ça, c'est quand même.
Ouais, c'est ça. C'est compliqué pour moi de vous répondre par rapport à ça, sauf à laisser transpirer en fait un point de vue qui est personnel et du coup qui repose pas sur des compétences scientifiques, quoi. Donc ça nécessiterait que je me positionne, si vous voulez, y compris sur un
Ça
positionnement
marche.
politique. Et un peu... Après, ce qu'on peut dire, c'est que à l'échelle locale, par exemple, hein, sur des intercommunalités ou à l'échelle de communes, hein, parfois les questions de jeunesse sont considérées comme prioritaires dans la mise en œuvre d'un mandat. Et du coup, elles traversent toutes les questions, hein, urbaines, sociales, culturelles, politiques, environnementales. Donc, on sait que ça peut fonctionner à l'échelle locale, et pourquoi pas se dire que à l'échelle interministérielle. Il y a aussi ce type de réflexion. Voilà, peut-être qu'il y a une transposition possible entre les savoir-faire qui sont développés par les collectivités territoriales à l'échelle des ministères. Mais effectivement, c'est compliqué de répondre et je n'ai pas suffisamment de lisibilité, si vous voulez, sur les enjeux aussi à l'échelle des ministères quant au fait que ceux-ci s'engagent les uns les autres à conserver leur précaré et leur périmètre d'intervention qui justifie leur légitimité, quoi.
Ok, une question du groupe où il y avait David Valigny. La forme des stages BAFA au CMEA appellerait à une autre appellation, à un autre brevet, entre guillemets. N'y aurait-il pas un risque de filtrer au profit de jeunes déjà engagés et de mettre de côté des jeunes qui développeraient, voire découvriraient, leur engagement volontaire? Si tu veux prendre la parole, David Valigny, je dis ton nom de famille parce que sinon c'est David Révolovitch, tu peux préciser hein, ce que vous avez échangé dans le groupe. C'est possible.
Peut-être qu'un premier élément de réponse là pour David, c'est de dire est-ce que ceux qui sont déjà éloignés de l'engagement s'inscrivent dans les BAFA actuels, hein, déjà. J'ai le sentiment que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, est-ce qu'il y a un risque fondamental quant au fait qu'on perde des jeunes qui s'engagent, ou en tout cas qui cherchent une voie dans l'engagement volontaire? Et je pense que ceux qui se cherchent le plus ne s'engagent pas aujourd'hui dans les BAFA. Enfin, ça reste à démontrer, si vous voulez, mais je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a, il y a quand même... Il y a quand même une forme de reproduction sociale dans les stagiaires qui deviennent BAFA. Hein. Ils disposent, hein, je vous l'ai dit, pour la plupart d'entre eux, hein, à peu près 60% d'un point de vue quantitatif, qui sont là en ayant la conviction d'être là et en ayant la certitude de la légitimité à être là.
Alexandre Veil dit par exemple... un engagement très localisé, les ACM de village ou un ACM de son quartier, vers un engagement plus sociétal ou en tout cas souvent via les réseaux sociaux, là j'ai pas compris pourquoi. Alexandre, je sais pas si tu as un micro, mais tu peux intervenir sur ta question.
Oui. Ouais, c'était un peu complexe, mais c'est une question aussi un peu du groupe. Ça faisait référence à la question, peut-être à clarifier entre Topos et Cosmos, là, mais moi, je suis parti c'était par rapport à l'hypothèse que les jeunes aujourd'hui, et peut-être dans la typologie, les jeunes qui sont un peu là par hasard, comme tu l'as dit, sont assez ancrés et peuvent s'engager par rapport à un ancrage sur leur quartier, sur leur village. C'est souvent l'animateur du coin, le prof, qui leur permet de s'engager de façon assez localisée. Donc ça, c'était un peu une hypothèse. Et du coup, est-ce que ça, c'était un peu à opposer à des engagements plus sociétaux et en regard de l'exemple, c'est je clique sur le réseau social parce que, et je m'engage. Donc voilà. Et ça, est-ce que ça, on pouvait rapprocher ça de la différenciation Topos-Cosmos?
En fait, cette distinction entre Topos et Cosmos renvoie à la lecture philosophique proposée par Heidegger, qui dit que l'homme habite l'espace en poète. Et que la poésie est l'acte de mesure des choses. Donc en fait, Heidegger considère qu'à travers le prisme sensible, l'individu prend la mesure des lieux, qui s'appellent donc des topos, et que c'est lorsqu'il réalise cette opération de prise de mesure des lieux, en mobilisant son expérience corporelle, sa sensibilité, ses émotions, ses dispositions phénoménologiques, qu'il arrive à transformer le lieu en espace. C'est-à-dire qu'émerge un milieu à part entière, et qu'on peut rapprocher du terme cosmos. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, en espérant que ce soit plus explicite. Et puis le deuxième, c'est que Effectivement, qu'il y a des logiques de cooptation locale, d'identification de jeunes qui prennent part à la vie de la cité, du quartier, du village, du coin, et qu'on précipite vers un stage BAFA. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi un enjeu dans le fait de dépasser l'organisation des stages pratiques dans les ACM, qui renvoie à la structuration de réseaux qui ne sont pas seulement des réseaux locaux et qui permettent justement aux jeunes de faire l'expérimentation d'une déterritorialisation, c'est-à-dire de ne plus être dans une forme d'ancrage territorial, mais d'avoir l'opportunité d'aller voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se passe ailleurs. Et ça, la densification du réseau participe aussi de l'opportunité pour des stagiaires BAFA de réaliser leurs tâches pratiques en dehors de leur territoire du quotidien, en dehors de leur territoire de vie, de leur bassin de vie. Et ça, c'est potentiellement enrichissant.
Ok, on va pouvoir repasser la parole du côté de la Web TV et du chat.
Oui, merci Béatrice, merci Ludovic. Alors, il y a une question autour de... on peut faire un stage pratique et on peut favoriser des heures de bénévolat. Alors, il existe plusieurs dispositifs et plusieurs collectivités qui déjà, pour financer le BAFA, disent tu passes le BAFA, puis en plus tu dois faire du bénévolat. Alors, du coup, moi, ça m'amène une question de différence entre engagement et bénévolat. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Je pense que, moi, personnellement, je pense que c'est deux choses différentes. Voilà, est-ce que Ludovic, tu pourrais nous parler un petit peu de cette question-là, même si les formes sont proches, les objectifs et les motivations peuvent être différentes. Ensuite, il y a une question de c'est précisément par rapport à ce que Ludovic sur l'éducation à la citoyenneté nous dit que des espaces d'engagement autres que les ACM peuvent être des espaces volontaires intéressants. Et donc, du coup, en réaction à cette question de l'éducation à la citoyenneté, et donc, du coup, effectivement, ça ne se mesure pas, il y a quelqu'un qui dit attention à ne pas faire du BAFA un fourre-tout, il y a uniquement 42 jours de formation. 42 jours de formation, c'est peu, mais en même temps, c'est beaucoup. Voilà, donc comment, quelle garantie? Alors, justement, hein, moi, je pense que ce que tu nous apportes, Ludovic, dans la réflexion, c'est de dire il faut aller vers autre chose. Donc, du coup, c'est plus un BAFA, c'est autre chose. Voilà, et donc, du coup, si on fait cette autre chose, comment est-ce qu'on conserve un BAFA? Parce que, du coup, comment est-ce qu'on prépare des jeunes adultes à s'occuper d'enfants? C'est autre chose qu'après aller faire un volontariat dans une maison de retraite, d'aller faire un volontariat dans une collectivité. Donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il y aurait une forme de tronc commun, puis une forme de spécialisation pour faire des stages pratiques et revenir? Voilà, c'est un vrai projet de société et un vrai projet de politique de jeunesse que tu proposes. Effectivement, moi, je pense que les CMA peuvent participer à cette aventure, à cette utopie qui pourrait devenir concrète.
Bon, moi, je te rejoins, hein, Jean-Baptiste. Hein, c'est-à-dire que je considère que engagement et bénévolat ne renvoient pas aux mêmes réalités. Moi, je dirais que l'engagement, ça renvoie à une conviction profonde hein, qui est forgée par le jeune sur la nature de l'engagement qu'il souhaite prendre, avec souvent une volonté justement de transformation des réalités auxquelles il est confronté et qu'il considère comme relevant d'injustice hein, sociale, spatiale, territoriale, voilà. Alors que de mon point de vue, le bénévolat convoque plutôt la notion d'opportunité, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'opportuniste dans le bénévolat, c'est-à-dire voilà, je fais une mission et puis il y a une rétribution. Alors que sur l'engagement, enfin, et puis souvent c'est associé comme ça, c'est engagement volontaire. Donc il y a cette volonté d'engagement parce qu'elle repose sur une conviction. Alors que le bénévolat, bon, on ne sait pas trop quelle est la nature de la conviction dans la réalisation d'une tâche qui est confiée, une tâche qui est vraiment identifiée. Donc ça c'est peut-être le premier élément sur la distinction engagement que moi j'associe à conviction et bénévolat qui de mon point de vue relève plus d'une opportunité ou d'une rétribution. Voilà. Et après, oui, effectivement, peut-être que, enfin moi je le redis, je pense qu'il y a la nécessité de retravailler sur le segment de l'ingénierie de formation, ce que peut potentiellement devenir le BAFA si on ouvre un espace de réalisation du stage pratique qui n'est pas seulement dans les ACM. Oui, ça nécessite un vrai travail de fond. Est-ce qu'il y a un tronc commun? Est-ce que, voilà, oui, c'est des préoccupations. Mais moi là-dessus, si vous voulez, je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai le sentiment que ça appartient justement aux acteurs du monde de l'éducation nouvelle, de l'éducation populaire. Ça s'inscrit aussi dans une logique de résistance vis-à-vis du SNU. Voilà. Est-ce qu'il s'agirait de réaffirmer la nécessité d'un accompagnement des jeunes sur ces questions de citoyenneté, de laïcité, de vivre ensemble, de cohésion sociale, en évoquant le fait qu'en marge du SNU ou de manière parallèle, voilà, il y a des savoir-faire et des compétences qui ne sont pas mobilisées aujourd'hui dans ces perspectives-là. Ça veut dire aussi qu'il faut assumer le rapport de force avec les ministères de tutelle. Hein. Voilà, c'est ce que ça signifie aussi très clairement, avec tous les risques induits, hein, c'est-à-dire la stigmatisation potentielle de certains mouvements qui s'inscrivent dans une résistance active et non pas passive. Et je connais un peu les postures des CMA. Voilà, est-ce que à terme, ça peut déboucher aussi sur des logiques de stigmatisation par ceux qui certifient, par ceux qui habilitent, par, vous voyez, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un danger aussi là-dessus. Voilà, c'est à double tranchant, j'ai envie de dire.
Ok, je te remercie. Alors, on va pouvoir passer la parole à Romane, qui est donc l'animatrice avec Jamel de l'atelier thématique sur le BAFA, qui a quelques questions qui viennent aussi de cet atelier.
Ok, merci Béa, vous m'entendez bien?
Oui, oui.
Oui, je ne vais pas réussir forcément à faire la synthèse de tout ce qu'on s'est dit dans l'atelier, ni des questions qui ont été écrites plus haut, elles ont commencé à être abordées. Mais c'est vrai que dans le petit groupe dans lequel j'étais, moi, on se posait beaucoup des questions sur l'engagement, ce que ça veut dire et comment on peut faire, comment on fait en sorte que ce que l'État, ce que des politiques jeunesse ou ce que nous, avec sûrement d'autres conceptions, on met derrière engagement, laisse quand même de la place aux motivations que viennent chercher les jeunes, les stagiaires, les personnes en formation. Et du coup, j'avais envie de te poser la question, Ludovic, est-ce que tu peux redévelopper un peu qu'est-ce qui fait condition de transformation sociale et d'éveil politique en fait, dans nos formations et qu'il faudrait garder, quelle que soit la forme du BAFA actuel ou de ce que ça pourrait devenir en fait. Qu'est-ce qu'il faut garder et qui fait en sorte qu'on parte bien des motivations et de là où en sont les personnes et qu'on peut les accompagner et pas seulement calquer ce que nous on entend par engagement.
Ouais, du coup, je comprends parfaitement la question. Du coup, ça nécessite de présenter un peu les outils qu'on a à la fois expérimentés, qu'on a mobilisés en tant que formateur, chercheur, dans le cas des BAFA. Parmi les outils, par exemple sur la connaissance des publics, vous voyez, en termes de posture pédagogique, vous avez différentes opportunités, différents types de positionnement. Soit on est sur une présentation très descendante des choses, et donc voilà, les 3-6, ils fonctionnent comme ça, les 6-11, ils fonctionnent comme ça, les pré-ados, les ados. Et donc vous avez une présentation descendante, et comme je le dis, à l'issue de la présentation, il suffit juste de faire passer un QCM pour s'assurer que les stagiaires aient bien compris les distinctions fondamentales qu'il y a entre les différents types de publics. Ou bien, vous avez une autre posture qui a été publicitée par les CMA, qui est de faire travailler les stagiaires, de leur proposer leur confrontation de leur point de vue, de mobiliser le prisme ludique, le prisme créatif comme étant une modalité finalement de compréhension de la manière dont fonctionnent ces publics. Ça, c'est un des exemples finalement qui permet d'encourager l'émancipation du stagiaire, futur animateur, quant à la manière dont il appréhende les relations qu'il souhaite engager avec les publics avec lesquels il va travailler. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est sur l'animation de la vie quotidienne, la mise en place de la vie quotidienne. On pourrait être dans des dispositifs très coercitifs. Donc voilà les règles, hein, elles ne se discutent pas, elles ne se négocient pas, les règles sont celles-ci. Et puis après, vous avez une autre posture qui est celle que vous plébiscitez, qui consiste à dire, sortons d'une démocratie représentative, c'est-à-dire que souvent les stagiaires s'engagent comme un seul homme dans le vote comme étant un élément qui permet de trancher les conflits, et puis plébiscitons la sociocratie, c'est-à-dire le débat contradictoire, et voyons comment est-ce que collectivement nous arrivons à créer du consensus autour des éléments qu'on considère comme indispensables à la mise en œuvre d'une vie quotidienne qui soit confortable, agréable et partagé par tous. Et à partir de là, mettons en place aussi des outils de vigilance, de veille et de remédiation dans l'hypothèse où on prenne conscience que les éléments qui ont été figés en début de stage, finalement, ne conviennent pas ou méritent d'être négociés, rediscutés. Donc voilà, ça, c'est des exemples assez concrets, hein, de conditions d'éveil aux politiques, Romain, comme tu l'as souligné, des éléments concrets qui permettent de faire l'expérimentation de sa citoyenneté ou en tout cas de son individualité dans un groupe et la manière dont on se positionne en tant qu'individu. Et ça fait grandir les stagiaires, quoi. Tous le reconnaissent. Enfin, tous. Pardonnez-moi pour le. Nombreux sont celles et ceux qui reconnaissent en tout cas le fait que, d'une part, ils n'avaient jamais fait l'expérimentation de ce type de fonctionnement, si vous voulez, collectif, fondé sur la sociocratie plutôt que sur la démocratie représentative, donc le vote, et qu'ils étaient subjugués par ce type de méthodologie, quoi. Je ne sais pas, est-ce que c'est un élément de réponse ou...
Oui, nous dit Roman, avec sa tête. Ok, merci Roman.
Peut-être que c'est un élément complémentaire aussi de réponse pour Roman. Je vous l'ai dit, hein, l'enjeu de l'étude, c'était de dire, nous, en interne, au CMEA, ce qu'on plébiscite, c'est la formation en internat, parce qu'on considère qu'elle est beaucoup plus enrichissante, compte tenu du fait qu'il y a ces logiques d'appropriation d'une citoyenneté ou d'appropriation d'un éveil aux politiques qui sont renforcées. Bon, ça c'est votre hypothèse de travail si vous voulez. Et nous, on la re-questionne en disant, ben, fondamentalement sur les aspects comparatifs entre de la demi-pension et de l'internat, ce dont on s'est rendu compte, c'est pas tant le dispositif en tant que tel, c'est-à-dire demi-pension ou internat, qui va avoir un impact sur la plus-value des pédagogies de l'éducation nouvelle, mais c'est bel et bien le degré de politisation des formateurs, c'est-à-dire la conscience qu'ils ont du rôle qu'ils peuvent jouer auprès des jeunes. À tel point que sur des formateurs qui ont, on va dire, des difficultés d'émancipation par rapport aux outils et par rapport aux critères d'évaluation du BAFA, et qui sont plutôt dans des postures un peu descendantes, de présentation des outils, dans une pédagogie descendante, on va dire ça comme ça, et malgré le fait que ce soit en internat, les trajectoires empruntées par les stagiaires sont moins dissidentes, si vous voulez, sont moins fortes que sur des stages en demi-pension où on a des formateurs qui sont pleinement engagés sur le rôle politique qu'ils s'assignent dans le cadre de la mise en œuvre d'une formation BAFA. Et parmi ces éléments de rôle politique, vous voyez un autre élément de un autre outil pédagogique qui est le rituel du matin que vous connaissez sans doute toutes et tous, qui est le comment ça va. On avait fait un stage en immersion en demi-pension et donc c'était au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et donc tous les stagiaires évoquaient la tristesse, l'émoi qu'avait précipité donc l'incendie de cette cathédrale. Et la directrice de stage, qui était malgré tout dans une posture où elle pouvait comprendre, si vous voulez, les éléments de tristesse convoqués par les stagiaires, avait évoqué en parallèle le fait qu'elle aussi, elle était triste, mais pour d'autres raisons. Et parmi les raisons qui justifiaient la tristesse du matin, c'était le fait que la police était venue déloger les migrants qui étaient dans un squat, si vous voulez, et qui ne faisaient pas l'objet d'une médiatisation. Et donc, ça a été l'opportunité, si vous voulez, de construire une réflexion collective autour du rôle que jouent les médias dans l'émergence d'une émotion collective. Voilà. Donc ça aussi, tout dépend de la manière dont on utilise l'outil. Est-ce que l'outil, c'est juste prendre la température, si vous voulez, de l'état émotionnel des stagiaires, et donc on se dit, ah, ils sont tristes parce que voilà, il y a une émotion collective qui est véhiculée par les médias, comme quoi la France perd un élément du patrimoine fondamental, etc., un édifice catholique, enfin, vous voyez. Ou bien est-ce qu'on utilise le comment ça va comme étant un outil au service d'une réflexion quant à la manière dont les médias insufflent une émotion collective. Donc voilà, enfin, là encore, c'est un élément de réponse hein, qui nous, et c'est une des conclusions du rapport, hein, permet de mettre en exergue que, bien sûr qu'il y a une densité, une richesse, une exaltation beaucoup plus importante dans le cadre d'un stage en internat par rapport à un stage en demi-pension. Mais tout dépend aussi de la nature de la posture politique militante des formateurs qui utilisent les outils, dont finalement l'appropriation par les formateurs est complètement différente en fonction de ce degré de politisation.
Ok, merci. Je pense que c'est assez éclairant. Je vais reprendre la question de Jérôme Lesage. Là, c'est, je trouve que les stages sont socialement ouverts à des jeunes présents parfois un peu par hasard. Et finalement, il y a quand même de la rencontre d'autres jeunes inscrits dans un parcours volontaire. Donc, c'est un espace des possibles où des transformations s'opèrent chez toutes et tous et parfois à court ou moyen terme. Je pense que tu es d'accord avec ça, mais c'est tout à fait important de le repréciser, de préciser ce brassage aussi un peu de population, de public.
Ouais, moi je suis un peu plus réservé sur la mixité sociale, hein, stage BAFA. Il y en a, oui, mais après, encore une fois, hein, ça aurait mérité qu'on aille voir d'autres AT, d'autres stages, etc., et qu'on ne soit pas sur une cohorte de 120. Mais sur des stages en internat, par exemple, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de mixité. La mixité, elle est plus efficiente sur les stages en demi-pension. D'une part, parce que ceux qui sont dans des formes de précarité sociale, hein, c'est pas du tout stigmatisant ce que je dis là, qui sont en échec scolaire, voilà, ceux-là vont privilégier justement les stages en demi-pension, parce qu'ils n'ont pas l'opportunité, alors non pas matérielle, parce qu'on sait que chez vous c'est à peu près les mêmes tarifs, mais voilà, ils ont des contraintes sociales vis-à-vis desquelles ils ont du mal à s'émanciper. Nous, on a rencontré des jeunes stagiaires qui ont 24-25 ans, qui s'inscrivent au BAFA plutôt dans un parcours de réinsertion professionnelle, vous voyez, ou en tout cas de réinsertion tout court, même si la finalité n'est pas professionnelle. Et donc, ils ont des obligations familiales, ils ont des enfants, donc très clairement, le stage en internat, ce n'est pas possible. Ou bien, ils ont des frères et sœurs dont ils ont la responsabilité. Ou bien, c'est des parents dont ils ont la responsabilité. Enfin, voilà, je veux dire, des freins à l'internat, et en fait on se rend compte que, en tout cas sur les deux stages qu'on a dans lesquels on était immergé sur l'internat, il n'y a pas tant de mixité sociale que ça. À Bordeaux, après c'est le contexte aussi territorial, hein, qui participe de la mixité sociale, je pense. Voilà, à Bordeaux on a un contexte malgré la gentrification du centre-ville, il y a quand même toutes les zones périurbaines qui sont voilà, en voie de paupérisation, certaines d'entre eux, voire même en voie de ghettoisation. Et comme il y a des logiques, si vous voulez, de contractualisation, où les CMA gardent des places dans leur stage pour ceux qui s'inscrivent dans des partenariats avec les collectivités qui sont un peu cooptées, et dont les jeunes n'ont pas l'opportunité de s'émanciper par rapport aux contraintes qui sont les leurs, sur ces stages en demi-pension, la mixité sociale est un peu plus importante que dans les stages en internat. Mais la question, on pourrait transcender la question proposée par Jérôme, qui consiste à dire, dans les stages BAFA tels qu'ils sont configurés actuellement, on souhaite conserver cette mixité sociale. J'ai envie de dire, enfin, la question subsidiaire, c'est celle-ci, c'est dans l'hypothèse où le BAFA évolue vers l'opportunité de proposer des stages qui ne soient pas seulement en ACM, est-ce que c'est un renforcement de la mixité sociale ou pas? Parce qu'il y a à la fois la mixité sociale, si vous voulez, à travers le prisme bourdieusien, c'est-à-dire à travers le prisme des classes sociales. Ça, c'est un premier élément qui permet de positionner la mixité sociale. Mais après, on pourrait très bien envisager une autre forme de mixité, qui est la mixité sociale et culturelle. Et dans la mesure où le BAFA serait un espace d'expérimentation et de validation de l'engagement des jeunes, et s'il n'y a pas que des ACM, du coup, on a une vraie mixité culturelle sur la nature des formes d'engagement des jeunes. Et donc, ça concourt aussi à l'émergence d'une nouvelle mixité, alors pas nécessairement sociale, hein, on est d'accord, mais au moins une mixité culturelle, c'est-à-dire que, voilà, il y aurait peut-être un horizon d'expériences, de vécu autour desquels pourraient se retrouver les stagiaires, qui auraient une mixité culturelle plus importante. Parce que là, globalement, dans les stages BAFA, sur les 60% qui sont intimement convaincus de la place qu'ils occupent, si vous voulez, dans les stages, on a souvent le même profil social, tant d'un point de vue de l'origine sociale des stagiaires que des types de capitaux dont ils disposent, quoi, si vous voulez. Voilà, ils sont tous inscrits dans des pratiques artistiques, sportives et culturelles qui sont assez standardisées d'ailleurs.
Une nouvelle question du chat. Ludovic, peux-tu synthétiser ce que la recherche a donné sur la place des réseaux sociaux dans les dynamiques de stage? Est-ce que tu sais ça?
Alors, ce serait plutôt à Fred de répondre, parce que c'est lui le spécialiste de ça. C'est lui qui a eu un regard plus fin sur ces questions-là. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y avait la construction d'un groupe dans le groupe, en fait. Et que les réseaux sociaux étaient une opportunité de faire vivre le groupe post-BAFA avec un jeu d'avatarisation des personnages et un jeu de mise en scène qui est propre aux réseaux sociaux, mais que ça pouvait être aussi un espace collaboratif post-stage. En revanche, pendant le stage, en temps de formation, on va dire ça comme ça, on voit que c'est très très bien intériorisé, l'usage des smartphones, et globalement, il y a peu de dérives quant au fait que les stagiaires en font usage pendant les temps de formation. Donc c'est un outil qui est utilisé en marge du dispositif de formation et qui fait l'objet d'une appropriation par les jeunes pour les jeunes, quoi. Et sur lesquels, du coup, aussi, autre élément complémentaire, sur lesquels les formateurs n'ont aucune prise et aucune connaissance de la nature des échanges qui sont développés, parce que les formateurs ne sont jamais associés aux groupes formalisés par les jeunes sur les réseaux sociaux.
Ok, il y a eu un peu plus haut dans les premières questions, il était évoqué la question du badge numérique. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu maîtrises, hein, mais ça peut être aussi un échange avec d'autres personnes, des écoutants, Roman par exemple. puisque, évidemment, si le BAFA devait se transformer, enfin, si dans son avenir de moyen à long terme, on peut imaginer d'autres choses. Évidemment, des gens se posent la question de mais qu'est-ce qui pourrait devenir et est-ce que ces badges numériques pourraient devenir des certifications, des diplômes? Je sais bien que non, hein, mais voilà, je trouve pas le nom. Je vais laisser la parole à Roman.
Oui, je veux bien repréciser parce que c'était quelque chose qu'on évoquait dans le groupe, comme voilà, l'intitulé de la conférence, c'est aussi la valorisation des engagements. Aujourd'hui, on va vers d'autres types de valorisation à échelle globale et territoriale. Et on se posait la question si les stages pratiques, ou en tout cas la partie pratique de ce futur format du BAFA ne se passe pas en ACM où l'indemnisation du volontariat n'est pas automatique et c'est quelque chose qu'on défend pourtant au CMEA. Étant donné qu'il y a une grande partie des stagiaires qui sont aussi là pour des raisons financières, pécuniaires, quelle vigilance, quel regard porter pour une réelle valorisation qui soit... Enfin, on avait un regard plutôt critique sur ce système d'open badge, de médaille, qui est pourtant très en vogue. C'est ça qui était dans la question.
Oui, ben moi, je suis d'accord avec cette lecture des choses. À l'échelle de mes responsabilités universitaires, je refuse de signer des conventions de stage quand les stagiaires inscrits dans une offre de formation universitaire ne sont pas indemnisés. Donc, moi, je te rejoins là-dessus, Roman. Après, sur les questions d'indemnisation, oui, ça reste à travailler avec les opérateurs aussi qui deviennent les espaces réceptacles de la réalisation des stages pratiques ou de la valorisation des formes d'engagement des jeunes. Ouais, c'est très bien hein, la valorisation sociale, hein, mais après, on sait très bien qu'il y a des enjeux aussi financiers sur les formes d'engagement que peuvent prendre les jeunes, et puis l'instrumentalisation parfois par certaines structures, hein, des formes d'engagement volontaire qui deviennent une opportunité pour certaines structures de faire des économies substantielles dans la mesure où ça leur évite de financer un emploi. Hein. Donc oui, il y a un travail aussi à réaliser là-dessus pour faire en sorte que les formes d'engagement volontaire que prennent les jeunes fassent l'objet d'une valorisation qui ne soit pas exclusivement sociale, quoi. Fondée sur la reconnaissance finalement de l'engagement. Moi, à la fac, toute convention qui est signée, parce qu'on est quand même sur des stages qui sont relativement longs, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, s'il n'y a pas d'indemnisation, je ne signe pas la convention. Et là, on voit bien que la crise hein, du Covid a exacerbé aussi le fait de refuser, y compris les indemnisations, à l'échelle de l'université que je connais un peu mieux, quoi, si vous voulez.
Ok, merci Roman. Une petite place à Jean-Baptiste pour la Web TV.
Oui, merci. Alors, c'est une petite réflexion autour du brassage social. Est-ce qu'il est rendu difficile à cause de la grande place donnée au moment informel? Et du coup, paradoxalement, est-ce que la mixité sociale se travaille plus et plus facilement un réel objet de travail et de rencontre en demi-pension qu'en internat, là où dans l'internat, quand il y a beaucoup d'informels, il y a moins de possibilités d'interaction et d'accompagnement, qui du coup va plutôt avoir tendance à refaire des communautés à l'intérieur du stage plutôt que de faire de la rencontre. Ouais, donc ça, c'est j'ai commenté la question. Hein. Et puis, il y avait une question autour de est-ce qu'il y a un lien entre choix de mode de réalisation de formation demi-pension et internat et engagement des jeunes dans la formation, sachant qu'à mon avis, c'est compliqué de répondre à la question parce que les jeunes, ils font un choix ou pas. Mais voilà, est-ce que toi, tu as pu avoir cette question, vous avez pu travailler cette question-là? Et puis après, il y a un stagiaire de Lille qui pose une question autour de est-ce que l'éducation nouvelle peut s'infuser ailleurs que dans les espaces éducatifs? Je pense qu'on est un peu à côté, donc moi j'ai envie de dire très rapidement oui dans les questions de la santé mentale, dans les questions de l'habitation, dans les questions d'aménagement des territoires. Mais ça, c'est un autre débat, c'est une autre conférence. En tout cas, je remercie ce stagiaire pour cette question.
Alors, sur articulation, nature de l'engagement et choix du format de formation, on n'a pas d'éléments. Je ne peux pas répondre formellement ou en tout cas à l'appui de données scientifiques là-dessus. Et après, sur la question de la mixité sociale, le fait que l'internat potentiellement peut renforcer des logiques communautaires, de reconnaissance, d'appartenance communautaire, sans doute. Ça dépend aussi, enfin, cette question de la mixité sociale dépend aussi beaucoup de la configuration territoriale, hein, de l'endroit où se déroulent les stages, surtout en demi-pension. En demi-pension, enfin, il y a une corrélation, si vous voulez, entre structuration sociale du territoire et puis mixité sociale. Si on est sur des territoires dans lesquels il y a peu de mixité sociale, globalement, sur des stages en demi-pension, on va retrouver le déficit de mixité sociale qui caractérise le territoire dans lequel le stage se déroule. Et à l'inverse, si on a la mixité sociale sur un territoire, on se rend compte que les stages qui sont organisés sur les territoires dans lesquels il y a la mixité sociale, c'est une mixité sociale qu'on retrouve à l'intérieur des stages. Donc, peut-être qu'une des conclusions, mais ça resterait à travailler, là encore une fois, en poursuivant les enquêtes et les études, consiste à dire que la mixité sociale est plus importante à partir du moment où il y a de la demi-pension, parce qu'on est sur des logiques de cooptation locale, si vous voulez, enfin cooptation au sens d'inscription, qui sont réalisées par des locaux, des gens qui habitent le territoire, des jeunes qui habitent le territoire. Ce qui nécessite peut-être d'avoir une veille hein, de votre côté quand on fait de proposer des stages, en tout cas en demi-pension, qui sont dans des espaces ou dans des territoires dans lesquels subsiste encore un peu de mixité sociale. Parce
Okay.
qu'après, après, il faudrait aller plus loin sur les enquêtes, et peut-être que c'est des données dont vous disposez qui mériteraient d'être triturées, travaillées, etc. C'est d'identifier l'origine géographique des stagiaires qui s'inscrivent en internat, pour le coup. Est-ce qu'ils viennent de loin, pas de loin, voilà. Ce serait un élément de réponse, ou en tout cas une piste intéressante à creuser en lien avec ces enjeux de mixité sociale, y compris sur l'internat. Alors, il y aurait l'origine géographique et puis il y aurait aussi l'identification des catégories socio-professionnelles dont ces jeunes sont issus, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui plébiscitent l'internat sont, entre guillemets, classe moyenne, classe aisée, ou en tout cas disposant de capitaux symboliques importants et qui sont encouragés par les parents à aller en internat dans la mesure où les parents sont déjà convaincus de la plus-value de ce type d'expérience de formation.
Oui, je pense que ces questions de rite de passage ou en tout cas de parcours pour grandir, hein, pour aider à grandir, semblent assez une question que l'on partage. Après, aujourd'hui, il y a quelques inquiétudes, menaces, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça sans dramatiser, mais évidemment, l'existence désormais du bac professionnel, du bac pro, peut faire que il y a d'autres possibilités d'arriver dans l'animation socioculturelle. Et alors, ça fait un panel plus large, on pourrait se le dire comme quelque chose de tout à fait positif. Mais bien évidemment, quid de l'avenir du BAFA, et certains proposent qu'il soit ouvert à des plus jeunes, à partir de 16 ans par exemple. Voilà, il y a différentes choses comme ça qui sont soit dans les forces ou plutôt les menaces.
Moi, je trouve que tu as bien résumé, Béa. C'est voilà, c'est la lecture qu'on a d'une offre concurrente, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais avec le bac pro. Est-ce que potentiellement ça peut déboucher à une érosion du nombre de participants en BAFA? Ou est-ce que, au contraire, certains vont considérer que le BAFA fait partie aussi du parcours et que c'est complémentaire à la formation bac pro, voilà, je ne sais pas. Le temps nous le dira, ça, cet élément-là. Et puis en même temps, j'ai été perturbé, enfin perturbé. J'ai été. Il y a un élément dans le chat là proposé par Roman. De mon point de vue, ce n'est pas antagoniste le fait d'ouvrir le BAFA dans des espaces où ce ne serait pas exclusivement la CM. C'est pas antagoniste quand on fait de mobiliser le jeu, la dimension expérientielle comme outil d'émancipation. Je pense qu'on peut très bien garder le jeu comme étant, je l'ai dit quand, enfin je l'ai dit, je préfère le redire, le jeu comme étant la troisième ère potentielle, hein, proposée par Winnicott, c'est-à-dire le jeu entendu comme la dimension ludique comme étant une forme d'expérimentation de sa créativité, à la fois individuelle et collective, quoi. Et ça m'amène peut-être à mobiliser un autre auteur, hein. C'est Gilles Deleuze qui dit que pour être créatif, en fait, il faut être dans une forme d'impasse. C'est parce qu'on est confronté à l'impasse, si vous voulez, qu'on devient créatif. Et donc, je trouve que, justement, les élans créatifs témoignent de l'impasse dans laquelle le monde de l'éducation formelle, celui de l'éducation nationale, précipite des individus qui s'inscrivent en rupture et qui du coup deviennent créatifs parce qu'ils prennent la mesure de l'impasse des outils pédagogiques qui leur sont proposés. Et Deleuze appelle ça les intercesseurs créatifs, quoi. Donc moi, je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas d'antagonisme entre une place importante concédée aux jeunes comme étant un espace expérientiel de l'espace potentiel tel que Winnicott le met en avant. Et ce n'est pas versé dans un prisme psychosocial ou voilà. Enfin, en tout cas, peut-être que je voudrais pas qu'il y ait d'amalgame sur le fait que reconfigurer un BAFA dans une perspective de voilà, éducation à la citoyenneté, etc., nécessite de faire l'impasse sur le jeu. Au contraire, je pense que il faut garder ces postures pédagogiques où le jeu est un outil d'émancipation parce qu'il y a un travail aussi réflexif et d'accompagnement qui est proposé par les formateurs. Vous voyez, je vous donne un exemple. On a fait un jeu qui a beaucoup plu aux stagiaires, qui s'intitule « Un pas en avant ». Et donc, en fait, les stagiaires tirent au choix un personnage qu'ils doivent incarner. Ces personnages-là renvoient à différentes position sociale occupée par les individus dans la société. Donc vous avez voilà, il y a aussi bien je sais pas moi un jeune migrant comme il y a si vous voulez je balaye large sur l'échiquier social. Donc il y a d'un côté un jeune migrant ou une jeune migrante et puis de l'autre côté la fille ou le fils d'un ambassadeur dont le père travaille à l'ONU. Vous voyez, et donc chaque stagiaire tire un personnage, et puis ensuite le formateur pose une question à laquelle le stagiaire, s'il a le sentiment qu'il peut répondre par oui, fait un pas en avant. Donc, par exemple, une des questions c'est éprouvez-vous une forme de menace dans l'espace public, oui ou non? Et en fonction de ça, on se rend compte finalement que. Enfin, c'est une manière à travers ce jeu, parce que les stagiaires le vivent vraiment comme un jeu, et puis la manière dont le formateur le présente, c'est on va jouer ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est une manière d'alerter les stagiaires sur comment s'orchestre finalement le renforcement des inégalités sociales. Et on peut même réintroduire de la théorie et amener les stagiaires à réfléchir sur ces concepts de capitaux, là, tels que Bourdieu les a mis en exergue, pour identifier comment s'articulent les logiques de reproduction sociale. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas incompatible, quoi. Hein, la place du jeu dans l'offre de formation. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument pérenniser et considérer comme un outil de formation à part entière.
Ben voilà, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette... conférence participative. Est-ce que il y a encore des petites questions, des gens qui souhaitent aller jusqu'au bout d'une intervention? Je crois que ça a l'air de se terminer. Est-ce que tu veux un petit mot de conclusion, Ludovic?
Bah moi, j'ai envie de dire qu'on pourrait même aller plus loin sur ces aspects-là, c'est-à-dire que si on établit l'hypothèse qu'il y a un groupe de travail qui engage une réflexion sur la reconfiguration de l'ingénierie de formation BAFA, de mon point de vue, ça ne peut pas être déconnecté aussi d'une réflexion sur les offres de formation professionnalisantes, c'est-à-dire BP, quoi. Hein, BP, DE... de manière, encore une fois, à se poser la question de qu'est-ce qu'on évalue et comment est-ce que, dans le cadre de l'évaluation d'un parcours de formation, ce à quoi on est attentif, quoi. En marge des connaissances que les stagiaires acquièrent. Parce qu'en fait, ça renvoie aussi à cette dichotomie hein, qu'on peut introduire hein, entre connaissances et dispositions ou aptitudes, vous voyez hein. Donc, de mon point de vue, il y a aussi un travail de réflexion qui transcende l'ingénierie de formation dans le champ du BAFA au bénéfice d'une réflexion plus élargie et qui embrasse aussi les enjeux de la formation et de la certification sur les BPJEPS.
Ok, je vais donc lire un dernier petit message du chat de Jérôme. Le discours sur l'internat-externat versus posture politique des formateurs et formatrices encourageant l'émancipation m'encourage à m'éloigner de cette question du retour au stage en internat. La posture du formateur dont parlait Ludovic, m'a renvoyé à ma dernière expérience BAFD, où notre positionnement politique collectif a peut-être permis au groupe de stagiaires de s'approprier le lieu de formation pour y vivre activement les contenus, en faisant attention à ce que chacun et chacune puisse exister. D'ailleurs, un certain nombre s'est questionné sur un engagement militant. Je ne sais pas si on a quelque chose à ajouter, hein. Je pense que ce n'est pas vraiment une question là, c'est plutôt un constat.
Oui, sur ce constat du militantisme aussi, c'est à partir du moment où on n'est plus dans une... Ou en tout cas qu'on prend ses distances sur les logiques d'évaluation, si vous voulez, de la formation. De mon point de vue, c'est aussi un enjeu, y compris à l'échelle du BAFA, de renouvellement du militantisme chez les SMN, quoi, très clairement. Hein. Moi, ce qu'on a identifié quand on était en immersion, c'est que la plupart des stagiaires BAFA 1 ne font pas le choix de faire un stage au CMA parce que c'est les CMA qui le proposent. Ils font le choix de venir au CMA pour des raisons pratiques, quoi, très clairement. Soit parce que c'est proche de chez eux, soit parce que les dates correspondaient à leur disponibilité. Et c'est ensuite qu'ils font l'apprentissage de la posture et la philosophie développée par les CMA et les formes de militantisme que ça recouvre. Et donc, du coup, il y a certains stagiaires qui sont subjugués, qui sont transcendés, qui sont exaltés par le fait de vivre ce type d'expérience-là, et potentiellement ça participe aussi du renouvellement du militantisme chez les SMR, d'autant plus qu'il y avait un témoignage sur la reproduction sociale en interne au CMR. Oui, c'est des choses aussi qu'on a identifiées. Voilà, le fait qu'il y a des logiques de reproduction sociale en interne chez les SMR aussi, bien sûr.
Eh bien, on va te remercier, Jérôme. Merci à tous les participants, à toutes les personnes qui ont souhaité dire un petit mot et questionner. Pour la suite du programme, alors on va dire au revoir d'abord à la Web TV. Et puis, dans un deuxième temps, je dirai un petit mot pour la suite du programme pour les participants aux journées d'études jeunesse. Alors, à très bientôt à la Web TV. Jean-Baptiste, si tu veux dire un petit mot, il n'y a pas de souci.
Moi, juste Béa, moi aussi, je voudrais remercier. Je voudrais adresser mes remerciements à toutes les équipes qui nous ont accueillis, parce que ce n'est pas évident, finalement, d'accueillir des chercheurs quand on est soi-même formateur. Ça peut être vécu comme quelque chose d'un peu intrusif. Enfin, voilà. Et dire aussi que donc je remercie toutes les formatrices, tous les formateurs, tous ceux qui, avec lesquels on a pu élaborer une relation de confiance. Voilà, ça a été important pour nous parce que finalement, on était dans un échange. Hein. Moi, je sais, et Fred pourra en témoigner encore plus, de manière encore plus probante, qu'on s'est beaucoup enrichi aussi au contact des formateurs, formatrices BAFA. Qu'on a réutilisé des outils et des méthodes qu'on ne connaissait pas, y compris dans le champ universitaire, pour essayer d'introduire de l'innovation pédagogique à l'université à partir de l'expérimentation qu'on a fait des outils de l'éducation nouvelle. Et donc ça a été une vraie forme d'enrichissement et de transformation sociale, y compris pour les chercheurs. Et je crois que Vacan, dont j'ai parlé, hein, qui mobilise, c'est Loïc Vacan, qui mobilise cette question des 6S dans ce qu'il appelle une sociologie de chair et de sang, témoigne de la manière dont on ne sort pas indemne d'une participation observante. C'est-à-dire que nous aussi, on s'inscrit dans un parcours de transformation en tant que chercheur. Et je trouve que c'est ce qui est le plus exaltant aussi dans notre métier, c'est de faire ce type de rencontre-là pour se questionner soi-même, à la fois sur sa posture de chercheur et en même temps sur sa posture de pédagogue, si tant est que ça puisse être évident de revendiquer les postures de pédagogue. Voilà. Donc vraiment un vrai remerciement à toutes les équipes de CMA qui nous ont accueillis sur les stages à Saint-Cloud, à Anneyron et à Bordeaux, et avec lesquels on a tissé en marge des relations professionnelles, des liens d'amitié qui continuent d'exister aujourd'hui.
Oui, simplement, oui, donc c'est hop. C'était pour dire merci à tous les auditeurs qui ont eu le plaisir de participer avec nous à ces conférences, ce cycle de conférences sur les journées d'études que nous avons organisées. Nous avons été heureux de pouvoir partager ces moments-là avec nous. Je l'ai écrit dans le chat. Voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous via les réseaux sociaux ou via l'association régionale territoriale des CMEA sur votre territoire. Nous continuerons de diffuser des conférences, des débats. Différentes réflexions pédagogiques sur cette Web TV, mais vous pouvez aussi aller taper à la porte de votre association régionale pour pouvoir faire un bout de chemin avec les CMEA. On vous remercie et puis passez un bon week-end et à très bientôt, un bon week-end confiné ou pas en fonction d'où vous habitez. Au revoir.